de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment ça va? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes, tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie est prête à fournir une assistance pour faire face au COVID-19. La République d'Indonésie et l'Union européenne souhaitent conclure un accord de partenariat économique cette année. Le partenariat entre Plindo 2 et un opérateur portuaire roumain. Les Pays-Bas ne soutiennent pas l'interdiction de l'huile de palme indonésienne. BKPM est prêt à accueillir l'investissement lors de la visite du roi et de la reine des Pays-Bas. Le ministère de l'Industrie facilitera les investisseurs de la Corée du Sud à développer l'industrie. Voici le journal complet. Pour lutter contre le virus corona ou COVID-19, une coopération est nécessaire entre les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour réduire la propagation du virus originaire de Chine. Le chef du bureau de coopération étrangère du ministère indonésien de la santé, Acep Somantri, après avoir pris la parole lors du forum diplomatique organisé par la Voix d'Indonésie à l'auditorium Yusuf Rundipuro RRI Jakarta, mercredi, a déclaré que les pays membres de l'OMS doivent partager des informations sur la situation et les cas positifs dans chaque pays. Selon lui, la coopération doit se faire dans le renforcement des capacités, en particulier pour les pays qui n'ont pas encore de système de santé adéquat pour faire face aux épidémies comme COVID-19. Acep Somantri a également déclaré que l'Indonésie est un pays qui a un bon système de santé et a été testé. Il a souligné que le ministère de la Santé avait officiellement répondu aux doutes internationaux selon lesquels l'Indonésie disposait de ressources suffisantes pour gérer les virus, y compris le virus corona.
Ada sejumlah pertanyaan dari dunia. Kita tidak tahu siapa yang bertanya, yang seolah-olah meragukan kapasitas.
Il y a un certain nombre de questions du monde. Nous ne savons pas qui pose la question, qui semble douter de la capacité de notre laboratoire. Mais le ministère de la Santé a répondu avec la publication et ensuite nous invitons également des journalistes, l'OMS, d'autres pays qui veulent savoir comment nous travaillons. Ils sont venus à notre laboratoire, au centre de recherche et de développement en santé à la rue Percetakan Negara. En outre, Acep Somantri a déclaré que le ministère indonésien de la Santé est également prêt à fournir une assistance dans le domaine des équipements médicaux et des experts de la santé au pays sans le besoin. En outre, l'Indonésie développe actuellement un nouveau vaccin par l'intermédiaire de Biopharma en tant que producteur de vaccins Indonésie. Auparavant, le président Joko Widodo avait offert son aide au gouvernement chinois pour lutter contre le virus corona. Le vice-ministre indonésien du commerce, Jerry Sambuaga, et le commissaire du commerce de l'Union européenne, Phil Hogan, se sont engagés à achever les négociations sur l'accord de partenariat économique global ou E-Indonésie avant la fin de cette année. Au cours de la réunion, l'Indonésie a présenté une proposition visant à accélérer les négociations sur l'accord et a été accueillie favorablement par l'Union européenne. Komisi Tepak Antaka Jakarta Merkredi, jadi samboga adik laki kela probasyon de la proposition Indonesia reflete le kol ang poktang de komers Indonesia. Selong lui, setangga zemang d'akselerasyon saka ang wayang de realize le zang terre avant que le produit et le service Indonesia et ang meilleur accès au marché international, notamment dans l'Union Européenne. Il est sûr que grâce à un dialogue constructif et intensif, les divergences de vues et d'intérêts des deux parties peuvent être comblées, notamment les plaintes concernant certains produits indonésiens étant difficiles à pénétrer en Europe et les intérêts européens liés au nouveau paradigme concernant les produits qui ont un impact sur l'environnement. Pelabuhan Indonesia ou Pelindo Société Anonyme a établi un partenariat dans le port avec l'opérateur du port Constanta en Roumanie. La signature du protocole d'accord entre Pelindo Société Anonyme et l'opérateur du port Constanta s'est tenue à Constanta, Roumanie, mardi. Le président directeur général de Pelindo 2, Elvin J. Massachia, a souhaité dans son discours que la coopération renforce la connectivité mondiale et élargit les opportunités commerciales entre l'Indonésie et la Roumanie. Il a dit que la Roumanie ainsi que plusieurs autres pays d'Europe Est ont convenu une croissance économique extraordinaire au cours des dernières années. La coopération comprend le développement commercial et les opérations portuaires, des études comparatives, le développement, la formation du personnel et le renforcement des questions environnementales. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef Blok, a déclaré que son pays ne soutenait pas l'interdiction de l'utilisation des biocarburants à base d'huile de palme par l'Union européenne. En revanche, les Pays-Bas soutiennent l'huile de palme durable. L'attitude des Pays-Bas qui ne soutenait pas l'interdiction d'utiliser du biocarburant à base d'huile de palme a été exprimée par Stef Blok lors d'accepter la visite de 8 journalistes indonésiens à La Haye mardi. Selon lui, il soutient l'huile de palme durable et le sort des agriculteurs des palmiers indonésiens à la petite échelle qui dépend de ce secteur. Le soutien néerlandais à l'huile de palme durable en Indonésie est marqué par la signature d'un protocole d'accord sur la production conjointe d'huile de palme durable le 27 septembre 2019. Le Conseil de coordination des investissements, BKPM, a déclaré qu'il est prêt à accueillir les investissements des Pays-Bas lors de la visite d'État du roi Willem Alexander et de la reine Maxima du 10 au 13 mars 2020. Le député par intérim du développement du climat d'investissement de BKPM, Yuliot, a déclaré mercredi à Jakarta que jusqu'à présent, les engagements d'investissement à signer entre l'Indonésie et les Pays-Bas sont toujours en discussion. De même, la valeur d'investissement estimée. Néanmoins, Yuliot a révélé un certain nombre d'investissements dans des secteurs qui seront ciblés plus tard, notamment l'industrie alimentaire et des boissons, l'énergie, la recherche. Les Pays-Bas renforcent plus leurs relations bilatérales et leur coopération avec l'Indonésie à travers la visite d'État du roi Willem Alexander et de la reine Maxima à Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Central et Sumatra du Nord du 10 au 13 mars 2020. La visite d'État du roi et de la reine des Pays-Bas à l'invitation du président Joko Widodo se concentrait sur le renforcement du partenariat et de la coopération dans les domaines économiques, de la conservation, de la nature, de la culture, de la science et dans un certain nombre d'autres secteurs qui renforcent les liens étroits des deux nations. Le ministère indonésien de l'Industrie a déclaré qu'il faciliterait les investisseurs potentiels, en particulier de Corée du Sud, pour encourager la réalisation du développement des zones industrielles en Indonésie. Cela a été dit par le directeur général de la résilience régionale et de l'accès à l'industrie internationale au ministère de l'Industrie, Dodi Rahadi, devant des dizaines d'investisseurs potentiels sud-coréens qui ont assisté mercredi au séminaire du parc industriel en Indonésie à Jakarta. Dodi Rahadi a déclaré que le gouvernement central, par le biais du ministère de l'Industrie et d'autres ministères ou institutions, supervise spécifiquement l'accélération du développement de ces zones industrielles. Il a déclaré que la Corée du Sud se classait au 7e rang pour la réalisation des investissements étrangers en Indonésie en 2019 avec un investissement total d'$1,070 million. Cependant, la réalisation de cet investissement a diminué par rapport à 2017 et 2018. Ces investissements sont répartis dans les 5 plus grands sous-secteurs industriels, à savoir l'industrie chimique et des produits chimiques, l'industrie de cuir, le maroquinerie et les chaussures, l'industrie de caoutchouc, les produits en caoutchouc et les matières plastiques, l'industrie du meuble et l'industrie pharmaceutique, les produits chimiques pharmaceutiques et la médecine traditionnelle. Serge Ritor, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs et auditrices du monde entier, voici le commentaire aujourd'hui intitulé « L'atténuation des catastrophes sera meilleure si le projet de la loi sur la question des catastrophes est ratifié ». L'Indonésie est un pays qui a le potentiel de catastrophes naturelles de forte intensité lorsque des catastrophes surviennent. Il y a de nombreuses victimes. L'émergence de nombreuses victimes incite les gens à se demander quel genre d'efforts d'atténuation des catastrophes entreprises par le gouvernement et la communauté. En Indonésie, il existe des instruments juridiques qui réglementent l'atténuation des catastrophes. Il y a la loi numéro 24, l'an 2007, concernant la question des catastrophes. Cette loi oblige l'État à prendre en charge la question des catastrophes. Mais cette loi est considérée comme présentant des faiblesses, de sorte que les efforts d'atténuation des catastrophes n'ont pas été jugés optimaux jusqu'à présent. En règle générale, la gestion des risques des catastrophes jusqu'à présent n'est pas systématiquement mise en œuvre dans des domaines des catastrophes spécifiques et variés. La gestion est principalement exécutée en cas d'urgence, relative en cas de catastrophe avec un minimum de données et d'informations non effectuées de manière proactive pour prévenir et réduire les impacts des risques des catastrophes. Le gouvernement central avait des politiques sur la gestion des risques des catastrophes sous forme de réglementation et de loi. Mais dans sa mise en œuvre, il n'a pas été accompagné des mécanismes adéquats, en particulier au niveau régional ou les régions. La capacité de la région à gérer les risques des catastrophes est encore loin d'être parfaite. La politique régionale d'atténuation des catastrophes n'est pas encore intégrée dans le budget régional. Jusqu'à présent, la direction et les politiques incertaines se reflétaient dans les actions réactives et d'urgence face aux risques des catastrophes. Le président Joko Widodo, lors de la réunion de coordination nationale sur l'atténuation des catastrophes 2020 à Saint-Olbogor, Java occidentale, il y a quelque temps, a demandé aux ministères concernés de renforcer l'atténuation des catastrophes. Suite aux instructions du président sur le renforcement et la gestion de l'atténuation des catastrophes, le ministère des Affaires sociales a préparé certaines mesures. Fondamentalement, le ministère des Affaires sociales a soutenu et encouragé la discussion du projet de la loi sur l'atténuation des catastrophes qui est inclus dans le programme de législation nationale ou PROLEGNAS. Les substances clés du projet de loi sont la question de la gestion des catastrophes à partir de la prévention, l'atténuation, l'arrêt d'urgence, l'intervention d'urgence, la transition d'urgence, la reconstruction et la réhabilitation. En outre, l'implication des parties liées est nécessaire dans la gestion des catastrophes. Jusqu'à présent, le ministère des Affaires sociales et l'Agence nationale d'atténuation des catastrophes avaient travaillé en manière optimale. Pourtant, l'impact des catastrophes est assez important. Par conséquent, la discussion du projet de loi doit prêtez attention à un mécanisme plus systématique et toutes les parties liées peuvent être coordonnées. Le projet de loi sur l'atténuation des catastrophes devrait être ratifié à la loi cette année. Il peut donc être mis en œuvre en cas de catastrophe et son impact ne sera pas si grand. Chers auditeurs, c'était le commentaire.
Sergeant Longten, pour la rubrique suivante, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui par le 20 février 1967, IGGI a tenu sa première réunion. Le groupe intergouvernemental pour l'Indonésie ou Intergouvernemental Group on Indonesia, IGGI, est un groupe international initié par les États-Unis pour coordonner les fonds d'aide multilatérale à l'Indonésie. Le même que de IGGI sont la Banque asiatique de développement, le Fonds monétaire international et le Programme des Nations unies pour le développement. La Banque mondiale, l'Australie, la Belgique, le Royaume-Uni, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et les États-Unis. IGGI a tenu sa première réunion à Amsterdam, aux Pays-Bas. L'Indonésie était alors représentée par le 9e Sri Sultan Hamengkubuwono. De 1967 à 1974, IGGI a tenu depuis 1967 à 1974, IGGI a tenu deux réunions par an. Cependant, depuis 1975, on ne se réunit qu'une fois par an en raison de l'amélioration du développement économique de l'Indonésie. Le premier assistant de l'IGGI était la préparation du programme du plan de développement quinquennal de l'Indonésie. L'autre information est sur des gaz toxiques de la région de Dieng a provoqué 149 morts le 20 février 1979. Cette tragédie s'est produite en raison de l'activité du cratère Sinila qui est situé entre le village de Batur, le village de Sumberjo, le village de Pekasiran et le village de Kopucukan, le district de Batur, Banjarnegara, Java Central. D'après des rapports du Centre de volcanologie et d'atténuation des catastrophes géologiques, le cratère Sinila a craché des gaz toxiques à la suite d'éruptions phréatiques dans le sud-ouest du complexe de volcans Dieng. 149 personnes sont mortes en inhalant du gaz CO2 et du gaz H2S au sulfure d'hydrogène à cause de l'éruption du cratère Sinila. Nous finissons l'histoire du jour avec l'événement la Journée nationale des travailleurs. La Journée nationale des travailleurs a commencé lorsque les dirigeants des syndicats d'Indonésie ont déclaré la formation de la Fédération des travailleurs de l'Indonésie, ou Fédération Bourse de l'Indonésie, FBSI, le 20 février 1973. Au congrès de 1985 de la Fédération des travailleurs de l'Indonésie, on a changé son nom en Syndicat Pekerja Seluruh Indonesia, ou en français, l'Union des travailleurs d'Indonésie. On a fixé au 20 février la Journée nationale des travailleurs dans le décret présidentiel numéro 9 de 1991 concernant la Journée des travailleurs indonésiens signée par le président Suharto. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Ku sepi, kau menemani. Di saat ku sedih, kau menghibur hati. Di saat ku pergi, kau setia menanti. Kau cinta sejati, cinta sejati. Di saat ku gerak, kau memadamkan. Sehingga
biasa sehingga aku tak bisa berkata-kata. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Cintamu bukan cinta biasa, karena kamu insan luar biasa. Sehingga aku tak bisa berkata-kata. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa.
Voilà la chanson intitulée Luar Biasa, qui signifie Extraordinaire, chantée par Yuka Tamada. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web www.voinews.id. Pour vous, chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers amis de l'antenne, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie et pour le titre « L'Indonésie contribue à maîtriser le changement climatique en 2030 ». Le ministère indonésien de l'environnement et des forêts a déclaré que l'Indonésie s'est engagée à contribuer au monde lié à la lutte contre le changement climatique en 2030 dans le but d'empêcher une augmentation de la température de 2 degrés Celsius. Le directeur général du contrôle des changements climatiques, Rwanda Agung Sugardiman, a déclaré mardi à Jakarta que cela avait été fait en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 29% grâce à leurs propres efforts et jusqu'à 41% avec le soutien de l'aide étrangère. Cet engagement s'est essentiellement traduit par une contribution déterminée au niveau national. Il s'agit d'un élément important de l'accord de Paris qui a été ratifié par l'Indonésie en 2016. Sugardiman a également déclaré que le gouvernement était déterminé à accroître la résilience économique, sociale et des moyens de subsistance ainsi que la résilience des écosystèmes et des paysages. À cette fin, le gouvernement a pris plusieurs mesures liées à cet engagement en élaborant des règlements et en mettant en œuvre des programmes directs au niveau communautaire, y compris le programme du village climatique. Selon lui, le principal défi du changement climatique est d'expliquer le changement climatique dans une langue qui peut être facilement acceptée par la communauté. Il a déclaré qu'à l'heure actuelle, le gouvernement continue de s'efforcer d'intégrer le changement climatique et les catastrophes dans la planification du développement, tant au niveau national que régional. En fait, le document du Plan national de développement à moyen terme 2020-2024, établi par le règlement présidentiel 18 de 2020, reflète la grande attention du gouvernement à la question du changement climatique. Cela peut être vu dans l'un des chapitres qui traite spécifiquement de l'environnement, de la résilience aux catastrophes et du changement climatique. Cependant, les efforts pour contrôler le changement climatique ne peuvent pas être faits uniquement par le gouvernement, mais nécessitent également le rôle du secteur privé, des organisations non gouvernementales, des universitaires et de la communauté. En outre, une coopération bilatérale et multilatérale a également eu lieu pour soutenir la lutte contre le changement climatique en Indonésie. Serge Ritter, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Yeah.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Samson dont le titre est « Dengan nafasmu », c'est-à-dire « Avec ton souffle ». Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans votre rubrique quotidienne, le magazine culturel. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons le village de Sindang Barang. Le village traditionnel de Sindang Barang est un village traditionnel sundanais, situé dans le village de Pasir Uri, le district de Taman Sari, la résidence de Bogor. Historiquement, le village de Sindang Barang existait depuis le 12e siècle et a été exposé dans le Babat Pajajaran et écrit également dans le poème de Bogor. Ce village conserve les aspects de la culture locale du royaume de Pajajaran où il y a 78 sites historiques à Pakuan Sindang Barang. Des cérémonies traditionnelles comme cérémonies traditionnelles de Serentaun, de Netepken, de Pabiasan et diverses autres cérémonies traditionnelles ainsi que diverses arts traditionnels sundanais. Serentaun est une forme de gratitude des résidents pour les bienfaits de leur culture. Serentaun existait à l'époque du royaume de Pajajaran au 15e siècle et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. En 2006, la mise en œuvre de Serentaun s'est concentrée après la reconnaissance du chef coutumier en raison de l'initiative de plusieurs groupes indigènes qui voulaient préserver la culture sundanaise à Sindang Barang, regroupée dans Padepokan Giri Sunda pour Sindang Barang. Avec le soutien du gouvernement de province, de district et des communautés de la région de Sindang Barang, ils peuvent créer un espace culturel dans le village culturel de Sindang Barang. En plus de l'événement Serentaun qui attire les touristes, il y a plusieurs endroits intéressants qui peuvent être visités lorsque nous sommes dans le village culturel de Sindang Barang. Le site archéologique est une relique du royaume de Pajajaran sous la forme de punden berundak. Le pierre de Dakon, le pierre de Tapak et d'autres situés dans le village de Pasir Uri, le district de Taman Sari, la résidence de Bogor. Il y a environ 33 terrasses et 60 autres points de distribution de sites. Vous pouvez également visiter le village culturel de Girijaya, qui est un village traditionnel de Girijaya situé à une altitude de 1200 mètres sous le niveau de la mer sur le mont Salak. Les visiteurs du village culturel de Sindang Barang peuvent également visiter la maison de l'industrie des chaussures. Il existe actuellement environ 300 maisons industrielles des chaussures. Les visiteurs peuvent également acheter directement auprès des artisans et voir comment ils les ont fabriquées. Sur la rue Surya Kencana, les visiteurs peuvent essayer diverses visites culinaires à des prix variables. Situé à 4 km du village culturel, les visiteurs peuvent essayer de magasiner dans des magasins d'usines dispersés dans la région de Tajur qui vendent des vêtements, des sacs et d'autres équipements à des prix variables. Il y a aussi la cascade Curug Nangka, situé au pied de la montagne Salak, qui est accessible en véhicule à seulement une demi-heure de route du village culturel. Les visiteurs peuvent profiter du beau paysage et du temps frais qui a sa propre sensation pour les touristes. C'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle à la Voix de Nézi. Au revoir.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Yofi Widianto, featuring Dilly et Gea, dont le titre est « Kemenangan Hati » qui signifie « Victoire du cœur ». Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Serge Jutak, bonsoir. Nous continuons notre programme avec l'Indonésie en couleur et pour le titre En développant du plastique à partir de peau de manioc, des étudiants indonésiens ont gagné le champion à Bangkok. Trois étudiants de l'Université chrétienne Satyawacana qui sont membres de l'équipe innovatrice de Caspea ont développé des produits bioplastiques à base de pelures de manioc. Grâce à ces innovations, ils ont remporté une médaille d'argent à Thailand Inventor Day 2020 à Bangkok International Trade and Exhibition Center BITEC, Bangkok, Thaïlande, qui a eu lieu du 2 février au 6 février 2020. L'équipe de Caspia est devenue l'un des contingents représentant l'Indonésie dans le concours qui a réuni 500 participants en provenance de 23 pays. L'un des membres de l'équipe, Igede Keshar Aditya Kameswara, a expliqué que le zeste de manioc contenant environ 60% des polysaccharides sous forme d'amidon n'est devenu qu'un déchet et n'a pas été largement utilisé. L'Indonésie est l'un des plus grands producteurs de manioc au monde avec une capacité de production de 21 millions de tonnes par an, ce qui fait de la peau de manioc un solide candidat pour l'ingrédient principal de la fabrication des bioplastiques car elle a une bonne durabilité. Le produit innovant nommé Caspea, un bioplastique fabriqué à partir de déchets de pelures de manioc pour lutter contre la crise des déchets plastiques dans le monde, aurait une résistance à des charges allant jusqu'à 15 mégapascals. Alors que d'autres produits bioplastiques ne peuvent supporter que des charges plus légères. Keshia a déclaré que les bioplastiques qu'il produisait pouvaient se décomposer de 34,56% sur 3 jours d'accumulation dans le sol, tandis que les produits concurrents n'étaient que de 18%. Cependant, les plastiques ordinaires ne pouvaient pas être décomposés du tout. Le processus de production est effectué en faisant tremper la peau de manioc dans une solution saline CR ou cyanoréduction pour éliminer le cyanure présent dans la peau de manioc. Puis le processus suivant consiste à sécher et à lisser la peau de manioc jusqu'à ce que sa forme se transforme en farine. La farine d'écorce de manioc est ensuite mélangée avec de l'acide lactique pour augmenter la résistance à la chaleur, après quoi le mélange est lavé avec de l'acétone pour obtenir des billets bioplastiques. De plus, les granulés sont mélangés avec de l'alcool polyvinylique ou PVA et d'autres additifs pour produire des bioplastiques qui ont des valeurs de résistance à la traction élevées. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia-manusia kuat, hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku,
kan ku temukan jalan yang lain.
Manusia manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya.
Manusia manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia manusia kuat, itu kita.
Patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
C'était la dernière chanson intitulée Manusia Kuat, ou en français Humain Fort, chantée par Toulouse. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir, voici le magazine musical. Cette édition, je vous présente une chanson de Marion Blina. Marion Blina a commencé sa carrière en 1980 en devenant mannequin cover girl. En plus, Marion Blina fait lentement ses débuts en tant qu'actrice dans le film Parawan Parawan en 1985. La suite, elle est devenue également chanteuse. L'une de ses chansons s'intitule Mulanya Biasa Saja. La chanson, sortie en 1987, a été composée par Pancho F. Ponda. Cette chanson semble très appropriée à chanter lorsque nous tombons amoureux, en particulier pour quelqu'un que nous connaissons depuis longtemps. Chers auditeurs, voici Mulanya Biasa Saja, ou Normal au début, par Marion Blina.
Mulanya biasa saja. Dan rinduku
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Cause I
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Au revoir.